m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Rarement un livre aura aussi bien porté son titre, car c'est bien d'une forme de monstre dont il s'agit, un objet littéraire non identifié ou si vous préférez un objet littérairement modifié. Un livre monstrueusement drôle, mais qui pose entre les lignes de vraies questions politiques, sociétales, scientifiques, éthiques, autour des manipulations génétiques ou de la démocratie directe. Un étrange patchwork contemporain dans lequel on croise, entre autres, un homme-chien, un eurocrate dépressif, un bacille plein de poésie, une ex-future candidate de Koh-Lanta, une manouche investie d'une mission christique, un employé d'Amazon avec des dreadlocks, un chercheur mexicain spécialiste des chasseurs-cueilleurs, un réalisateur de films porno, une psychanalyste voilée et quelques autres spécimens humains. Bref, il ne manque que les gilets jaunes, mais peut-être sont-ils un peu là d'ailleurs, sans forcément le savoir. Chimère d'Emmanuel Pirer est paru aux éditions de l'Olivier et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Emmanuel Pirer.
Bonjour.
Alors j'aurais pu citer quelques autres personnages, mais il y en a un essentiel que je n'ai pas cité dans la liste. C'est une certaine Emmanuelle, écrivaine de son état, née en Auvergne, lauréate d'un prix important, le prix Médicis en 2012 pour son roman Féerie Générale. C'était important pour vous de vous mettre en scène parmi tous ces personnages.
C'est moi qui guide l'ensemble. Ouais. Il faut quand même quelqu'un qui ait une poigne un peu ferme pour tenir tous ces personnages dont vous avez parlé. Voilà, et c'est moi-même puisque je les invente, je les tiens aussi d'un bout à l'autre de l'intrigue.
Oui, c'est elle effectivement qui tisse un peu le lien entre ces différents personnages qui, sur le papier, n'étaient absolument pas faits pour se rencontrer.
Non, hein,
c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous racontez dès les premières pages comment toute cette histoire a commencé, ou plutôt, alors je sais pas trop si ça a réellement commencé comme ça, mais si c'est vrai, censé avoir commencé comme ça, un coup de fil.
Oui, alors en effet, c'est un assemblage de vrai et de faux, et on sait jamais ce qui est tout à fait vrai
voilà,
ou tout à fait faux.
C'est ça qui est intéressant, parce que vous jouez effectivement en permanence entre le vraisemblable, entre la réalité, entre le fantasmé, entre l'inventé. Donc en tout cas, dans le livre, ça commence par un coup de fil
dans la
réalité
journal, aussi.
Dans la réalité aussi, voilà, un coup de fil de Libération, qui vous propose donc d'écrire deux pages de Tribune sur un sujet libre. Alors, vous êtes un peu prise au dépourvu, vous êtes sur la plage, je crois, parce que le téléphone sonne. Vous dites banco, ça vous intéresse. Et comme sujet, vous choisissez les OGM. Pourquoi les OGM ?
Alors ça, c'est ce que j'ai proposé dans la réalité. C'était pour le Libé des écrivains, qui est un numéro de Libé qu'on fait chaque année pour le Salon du Livre, qui est rédigé entièrement par des écrivains. Donc les écrivains ne connaissent pas, ne sont pas des spécialistes des sujets, ne sont pas par exemple des spécialistes de l'environnement ou de l'agriculture, etc. Et en même temps, on leur donne le droit pour une fois de donner leur avis sur un sujet de société. Donc j'ai choisi
pour une fois. Ça veut dire qu'on le fait pas suffisamment à votre goût.
Oui, moi je trouve que les écrivains devraient plus donner leur avis certainement.
Eh bien, on va sans doute le faire d'ici la fin de l'émission
aussi,
avec vous.
Oui. Et donc j'ai voulu parler des OGM, je savais pas trop pourquoi, parce que je ne connaissais pas bien, mais justement parce que je connaissais pas bien, je trouvais que c'était important que, je me disais, c'est quand même curieux, je pensais qu'on avait dit non aux OGM, comment ça se fait que je risque d'en avoir dans mon assiette, et comment ça se fait que je connais pas très bien les processus et les protocoles d'autorisation de ces maïs, par la Commission européenne. Donc, en tant que citoyenne, en tant qu'écrivain aussi, mais en tant que citoyenne, il fallait que j'en sache un peu plus, donc j'ai mené l'enquête.
Donc, sujet extrêmement technique, pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, technique et juridique,
voilà, donc vous êtes aidé par ma consoeur de Libé qui s'occupe justement des questions d'écologie et environnement. Bon, mais ça vous suffit pas. Hein, visiblement, puisque ça aussi vous l'expliquez dans le livre, nous, je vous cite, hein, nous les auteurs littéraires d'aujourd'hui, n'hésitons pas à nous déplacer sur le terrain pour éviter de raconter n'importe quoi. Vous fonctionnez vraiment comme ça ?
Je me documente beaucoup. Quand je dis que je vais vraiment sur le terrain, ça, j'en rajoute un peu parce qu'en fait le réel m'en impose beaucoup et si je vais trop dans le réel, je suis impressionnée et j'ai besoin de prendre du recul. Donc parfois je raconte dans le livre que j'ai fait telle et telle chose et c'est pas tout à fait vrai.
Bon, mais c'est vrai que la crédibilité du roman, c'est important pour vous. Il faut que le lecteur puisse penser que cette histoire-là, même si elle peut sembler à plein des égards complètement folle, pourrait réellement se
produire. Tous les éléments, en fait, sont plus ou moins réels. Simplement, je les pousse à peine plus loin que ce qu'ils sont dans la réalité. Et donc, là, il est question d'une chimère, qui est un homme-chien. Et en fait, en lisant des documents à propos des OGM, j'étais tombée sur un genre nouveau de manipulation génétique qui consistait à fabriquer dans des laboratoires du Royaume-Uni des chimères homme-animal en fonction d'une autorisation qui avait eu lieu quelques années auparavant dans la loi, un changement de la loi britannique.
Mais ça, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a dans des laboratoires britanniques, en tout cas il y a eu dans des laboratoires britanniques comme celui de Newcastle où vous rendez dans le livre, des biologistes qui font des manipulations génétiques qu'on peut pas faire sur le reste du territoire européen.
Oui,
en France, par exemple, c'est pas possible.
En France, on a fait des chimères, mais animal, mais pas homme, animal.
Voilà. Et voilà. Là, en l'occurrence, il s'agit de chimères dans un but de
thérapeutique, hein, oui, voilà. D'études, de maladies, voilà, pour faire des cellules souches, voilà. Et donc, non, c'est assez cadré, même dans la loi britannique, on a droit de faire des embryons et de les laisser grandir 14 jours, et ensuite on doit les éliminer. Donc moi, simplement, j'invente un tout petit peu plus, et j'imagine qu'une laborantine, un peu en conflit avec son chef, fait ses petites expériences perso dans son coin, et elle donne naissance, elle insémine un de ses embryons et dans une chienne du quartier, dans l'utérus d'une chienne du quartier, et elle obtient un homme-chien.
Voilà, donc elle s'appelle Tatiana, hein, en l'occurrence, cette biologiste, et elle fait un petit peu comme vous, finalement, Emmanuel Pirer, c'est-à-dire que elle observe, et ensuite elle agit, elle manipule, elle modifie, c'est un petit peu le travail d'écrivain.
Ouais, tout à fait, elle fait tout un tas d'expériences qui ratent très souvent, et
ça vous arrive de rater?
Ah ben ça rate beaucoup, oui. J'écris pendant très longtemps, donc je passe par beaucoup d'essais et d'erreurs avant d'obtenir. Oui, c'est un peu une méthode scientifique, ouais, aussi.
Alors, on va pas dévoiler tous les secrets de fabrication et de manipulation de votre livre, parce que la surprise compte énormément aussi dans le vrai plaisir de lecture qu'on peut avoir, mais on va quand même, les uns après les autres, examiner quelques-uns seulement de vos sujets d'études, un peu comme si on allait regarder un petit peu à travers le microscope du personnage de Tatiana. Et on va commencer justement par Tatiana, parce que effectivement, donc c'est une scientifique qui travaille en Grande-Bretagne, ce qui n'est pas anodin, puisque on pourra pas faire effectivement ailleurs que ce qu'elle fait. Vous êtes réellement rendu dans un laboratoire. Est-ce que Tatiana existe, Emmanuel Pirer?
Non, elle n'existe pas. C'est un montage. Je pourrais faire croire que j'y suis allée, mais non, j'y suis pas allée. J'ai regardé des tas de vidéos, j'ai lu des tas de choses. Ce qui est étonnant, en fait, par rapport au rapport avec le réel, c'est que j'ai commencé à écrire le livre vers 2014-2015. Et cet été, j'ai reçu beaucoup d'emails et de messages de gens qui me disaient « Est-ce que tu as entendu cette information ? Au Japon, on autorise maintenant à inséminer et à obtenir des chimères homme-animal. » C'est maintenant
donc
possible.
Donc vous avez été rattrapé par l'actualité.
Exactement, oui. Et j'ai vu aussi, entre 2014 et 2019, le ton changer dans les articles de presse pour parler de ça. C'est-à-dire qu'au début, on disait vraiment « C'est des monstres et certainement qu'on va pas faire ça. C'est très très cadré, on va jamais dépasser les 14 jours. » Puis petit à petit, ça monte, ça évolue. Et puis là, maintenant, c'est quelque chose d'assez bien, en fait. On peut faire des organes, par exemple, dans des organes humains qui pousseraient dans des cochons, qui seraient des espèces d'usines à organes. Et ça peut être bien, parce que les files d'attente sont longues pour obtenir des organes humains.
Oui, vous jouez d'ailleurs avec le chiffre, hein, parce que, comme elle parle anglais, évidemment, Tatiana, oui. Ça se passe à Newcastle, vous entendez pas
oui,
très bien
pas
si
très
elle dit
bien.
40 ou 40.
Voilà, oui, donc ça...
Voilà. On sent quand même, elle est un peu borderline, quand même, Tatiana. elle triche un peu, quoi. Des chercheurs, on sent quand même que son éthique est un petit peu à géométrie variable, quoi. Elle s'amuse aussi, en fait.
Oui. Mais oui,
ça
mais
existe pas, ça.
Je sais pas, en fait, quand on est scientifique, je pense qu'on a une sorte de désir, un immense désir de dépasser des frontières. Enfin, quand on est chercheur, quand on est artiste aussi. Et sauf que là, ça se passe dans le réel, c'est un peu plus dangereux que dans un livre.
Voilà. Et donc, elle va fabriquer donc cet homme-chien qu'elle va baptiser Alistair, et elle va offrir ce chien hybride à une amie qui vit en France, qui s'appelle Brigitte, qui est une fondue de cinéma, notamment une fondue des films de Romer. Et quand elle le reçoit, ce chiot, donc il est encore effectivement tout petit, et petit à petit, la cohabitation commence sous de bons auspices au début.
Elle avait trouvé dans la compagnie d'Alistair un épanouissant équilibre. Quand on pense au monstre que c'était, il y a de quoi être surpris. Car même si elle l'ignorait encore, Alistair était la matérialisation d'un des pires cauchemars de l'humanité. Mais ainsi est notre psychisme, qu'il prend volontiers les sentiers plus tortueux pour parvenir au bonheur. C'est souvent la tête posée sur les enceintes que nous trouvons un sommeil réparateur. Dès qu'elle s'installait à l'établi, le chiot bondissait sur un tabouret pour suivre l'action de ses yeux graves, passionné, semblait-il, par la soudure des circuits électriques. Il savait cependant ne pas être insistant et passait de longs moments à regarder dehors. Appuyé au radiateur, tête glissée sous le rideau, il observait jardiniers municipaux et promeneurs au bord du lac, dans de longues stations debout sur ses pattes arrière, qui auraient eu de quoi alerter Brigitte, sans son penchant à tout trouver normal. Si elle allumait le vidéoprojecteur pour regarder un film, il accourait en glissant sur le carrelage et s'allongeait près d'elle dans le canapé. Le film terminé, contrairement à bien des humains qui dans les cinémas se lèvent et enfilent leur manteau à la dernière image, il attendait la fin du générique pour sauter du sofa et s'ébrouer sur le tapis. Et quand Brigitte prolongeait le visionnage par une analyse comparée du rapport à la nature dans l'arbre, le maire et la médiathèque et contes d'automne, on aurait juré que par ses gémissements en glissant d'eau, il donnait la réplique. Un élément pourtant finit par la troubler. Elle se sentit gênée d'entrer nue dans sa baignoire. La vaste salle de bain, multifonctionnelle, lui avait au départ paru idéale pour poser la panière, modèle qu'elle rachetait régulièrement au centre commercial dans un format supérieur. 3 mois plus tard, elle redoutait les moments où, debout contre le radiateur, Alistair abandonnait le spectacle du lac pour la scruter de ses yeux pénétrants tandis qu'elle se douchait. Bien qu'elle se trouvât ridicule et s'accusât d'anthropomorphisme, Brigitte commença à soupçonner l'animal dormant au milieu des coussins de jeter d'indiscrets coups d'œil par-dessus le pelage noir luisant de ce qu'il fallait bien appeler ses bras.
Alors on est un peu partagé. Quand on arrive à cette page-là, Emmanuel Pirère, quand on lit, on a envie de sourire, voire de rire, et puis il y a une inquiétude quand même qui finit par sourdre un peu entre vos lignes. Vous auriez pu faire sur cette thématique-là un livre très inquiétant. Vous avez plutôt choisi un ton tendrement ironique, enfin pas toujours tendre d'ailleurs, mais enfin vraiment ironique avec des situations qui peuvent sembler complètement loufoques. Votre objectif c'est quoi? C'est de divertir, c'est de faire réfléchir ou c'est tenter de faire les deux en même temps?
Oui, les deux en même temps, certainement. En fait, c'est pour la plupart des sujets qui sont dans le livre, sont pas des sujets qui me font tellement rire dans la vie, en fait. Toutes ces chimères me font dresser les cheveux sur la tête.
Justement, on aurait pu penser à avoir un livre presque d'épouvante.
Oui, tout à fait. D'autant qu'il y a toujours eu des dans les livres d'épouvante des hommes chiens, des loups-garous, etc. Et que, en fait, là, ce qui m'intéresse, c'est justement que c'est encore pire parce que ça passe dans le réel. Donc, c'est vraiment l'épouvante. Et en même temps, peut-être par catharsis, par désir de catharsis, ou je sais pas, pour me réconforter moi-même, je traite ces thèmes-là. Je les polis, je les transforme, etc. Jusqu'à en faire quelque chose qui m'amuse, qui me semble plus léger.
Mais le rire est peut-être aussi plus efficace qu'un long essai philosophique. Ça ne s'adresse pas forcément au même public non plus. Oui. Une curiosité justement à ce sujet, Emmanuel Pirère. Pourquoi avoir fait de Brigitte une fan absolue d'Éric Rohmer?
Ah,
Que vous avez contre Éric Rohmer?
Ah, ou pour Éric Rohmer? Justement, j'adore Éric Rohmer.
Ah, bon.
Et ça se passe en 2017 et elle regarde des films de Rohmer. Et Rohmer me semble être, c'est le modèle de cinéaste que j'ai aimé quand j'étais adolescente, qui était ma visée vers la culture, quoi. Toutes ces discussions extrêmement longues, compliquées sur des tout petits détails de l'existence, etc. Et par exemple, dans Le Rayon Vert, un personnage qui pleure parce c'est Marie Rivière qui ne sait pas où partir en vacances et c'est le problème principal qu'elle a, c'est le problème général. Le problème principal dans les années 80 d'un personnage de jeune fille, c'est où est-ce que je vais partir en vacances et ça peut me faire pleurer. Alors que dans le monde où on est en ce moment, c'est absolument impossible de prendre ça en considération. Donc c'est pour faire apparaître cette distance qui nous habite, enfin moi qui m'habite en tout cas, d'être encore dans des rêveries de petites choses complexes sur lesquelles j'ai envie de réfléchir et puis en même temps devoir arriver vers moi des choses qui sont plus de l'ordre de l'horreur et ça fait une distorsion intérieure. C'est ça que je veux mettre en scène.
Voilà, on imagine vraiment être à côté d'Alistair et de Brigitte dans le salon devant un film de Rohmer, ce qui est déjà intéressant du point de vue de l'atmosphère, de l'ambiance qui peut y régner. Et Brigitte, elle a quand même beaucoup de chance, Emmanuel Pirère, parce que on lui fait quand même des cadeaux pas tout à fait comme les autres. Il y a Alistair, hein, on en a déjà parlé, et puis on lui offre aussi une bactérie pas tout à fait comme les autres. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus?
C'est lié à c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Eduardo Cac, qui est c'est un artiste, il n'y en a peut-être pas tant que ça, qui travaille sur la biologie, justement. Un artiste brésilien, oui, qui avait fait un lapin vert, qu'on a vu beaucoup dans les livres d'art, qui était un lapin blanc, mais avec un gène de méduse, donc un lapin génétiquement modifié, qui a été fait dans un laboratoire à Jouy-en-Josas, non loin de Saint-Quentin-en-Yvelines, où habite Brigitte, justement. Voilà, donc elle a une nièce, cette Brigitte, qui est en école d'art et qui lui fait chaque année un cadeau pour Noël, qui est un cadeau original, qui est une œuvre d'art. Et donc là, cette fois-là, elle lui offre cette bactérie qui est un OGM, donc un OGM artistique en quelque sorte. Donc
on a insufflé de la poésie à l'intérieur de
bactérie. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est un poème qui prend la forme d'une bactérie. C'est un peu compliqué. Enfin, les lettres correspondent aux lettres de l'ADN. Et on peut fabriquer son son poème comme s'il était vivant, qui est en fait une bactérie vivante.
Alors, vous êtes poétesse, vous aussi. Vous êtes aussi une adepte des performances artistiques, comme on dit. Vous l'avez réalisé en vrai ?
Non, je ne l'ai pas réalisé. Et j'ai essayé de trouver cette œuvre et de savoir même combien elle coûtait, parce que je voulais savoir si c'était crédible qu'on puisse l'offrir à quelqu'un pour Noël. Et je n'en ai jamais trouvé ça. Mais récemment, il y a 2-3 jours, quelqu'un m'a dit une femme m'a dit que sa sœur avait cette bactérie dans son bureau à Paris. D'accord. Et qu'elle avait possédé cette œuvre, qui était un petit peu dégoûtante, en fait, que tout le monde était un peu ressentait un peu de répulsion à voir cette œuvre.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Emmanuel Pirer pour son nouveau roman Chimère, publié aux éditions de l'Olivier, un roman que 3 de nos auditeurs pourront gagner tout à l'heure en répondant à la question du jour que je vous poserai d'ici la fin de l'émission via notre page Facebook. Alors à la fin du roman, Emmanuel Pirer, comme il est d'usage, il y a quelques remerciements à ceux qui ont aidé la romancière que vous êtes à écrire le livre. Alors là, il y a quand même une bonne quarantaine de noms, ça fait quand même pas mal. Il y a Edouard de Cac, d'ailleurs.
J'ai demandé beaucoup d'aide.
Voilà. Alors certains noms vont pas forcément dire grand chose au lecteur, d'autres noms sont extrêmement connus, comme Franz Liszt, dont je me doute que vous l'avez pas forcément croisé au coin d'une rue ou dans son salon. William Faulkner, vous l'aurez peut-être aimé le croiser, mais c'est pas vraiment le cas. Ou encore Jacques Testard. Alors Jacques Testard, c'est un très grand nom de la génétique, hein. C'est le biologiste qui a permis la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, c'était en 1982. Vous le mettez en scène dans le livre, alors de façon assez rapide, mais c'est vraiment une scène clé parce qu'il y a une forme de basculement qui se produit lors de cette rencontre-là. C'est une rencontre qui a réellement eu lieu, c'est une rencontre qui vous a marqué ?
Alors, c'est une rencontre qui n'a pas eu lieu non plus.
Ah, je suis déçu.
Mais j'espère qu'elle va avoir lieu. Ah. Voilà. Je vais essayer de réparer ça bientôt. J'ai échangé ce matin avec lui des emails dans ce sens.
Il a lu le livre ?
Oui, je lui ai envoyé, voilà. C'est pour ça qu'on en discute en ce moment. En fait, je l'ai entendu pendant que je travaillais sur ces thèmes scientifiques. Je l'ai entendu à la radio. Expliquait que maintenant il avait vraiment changé de centre d'intérêt et que son grand centre d'intérêt c'était les conférences de citoyens, les conventions de citoyens, il appelle cela comme ça, qui consiste à ce que des citoyens soient recrutés au hasard dans la population et qu'on les fasse réfléchir sur un sujet important pour l'avenir, souvent un sujet techno-scientifique, et qu'ils puissent se prononcer et qu'ensuite les élus écoutent et leurs recommandations et les suivent, bien entendu.
Donc la science citoyenne, c'est l'un des objectifs de Jacques Testard aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pense que c'est donc aux citoyens, donc autrement dit aux gens comme vous et moi, de fixer à la fois les objectifs de la recherche scientifique et aussi d'en fixer les limites.
C'est ça, oui. Puisqu'on paye pour la recherche scientifique avec nos impôts, et puisqu'aussi on paye les pots cassés quand ça rate, quand tout un tas de catastrophes se passent à cause d'inventions qui vont trop loin, ils pensent qu'on doit donner notre avis et puis ne pas prendre tout ça pour argent comptant sans arrêt, de devoir subir des inventions dont on ne souhaiterait pas vraiment les conséquences.
Et donc cette idée de Jacques Testard de convention des citoyens va devenir l'un des fils rouges narratifs de votre roman, à travers le déroulement non pas d'une conférence purement scientifique dans le cadre du CNRS par exemple, mais d'une conférence citoyenne mise en place par l'Union européenne. C'est Testard dans le roman qui vous incite justement à assister à ce genre de travaux. Elle existe vraiment là aussi, cette conférence à l'échelle européenne?
Il y en a eu j'ai lu des exemples, c'était pas tout à fait celle-ci, mais j'en ai lu des exemples, ça a déjà existé, ouais.
Et il y a toute une liste, hein, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la dernière page du roman avec la liste de tous les ateliers, parce qu'il y a 27, en fait, panels de 12 citoyens européens tirés au sort, donc dans tous les pays européens, enfin 27 ou 26, parce que comme il y a le Brexit, évidemment, en ce moment, donc vous avez barré d'ailleurs.
Oui, on a barré, c'est 27 pays, du coup, pas 28.
La thématique britannique, alors il y a des thèmes qui sont extrêmement sérieux, hein, puisqu'on discute du terrorisme, de la finance, de la PMA, sujet extrêmement d'actualité, en France en tout cas, du génocide, des droits des femmes, et puis il y a des sujets, on va dire, un peu plus légers sur le papier. Il se trouve que le panel français s'est vu assigner une redoutable mission, celle de réfléchir à la question du temps libre, et c'est dans ce panel que se trouve le premier personnage que rencontre le lecteur dès la première page du livre. Ce personnage s'appelle Wendy, on va le découvrir ensemble dans un instant.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grande qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano, el color de...
C'est des guitares des nuits sans fin, les mots chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor. Color gitano, ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur. Color gitano.
Gitano, Kenji Girac dans VMDN sur RFI, hommage à la culture gitane dont il est issu, chanson qu'aurait peut-être apprécié votre personnage Wendy, Emmanuel Pirer. Alors Wendy, vous allez peut-être nous la présenter, cette minuscule femme aux yeux bleus et cheveux d'or. Elle a un sacré caractère.
Oui, c'est une manouche.
Elle vit dans les Yvelines, en région parisienne.
Voilà, hein. Comme Brigitte qui vit aussi à Saint-Quentin en Yvelines. Donc j'ai tout situé dans un territoire assez contemporain et à la fois pas complètement central, quoi, entre la campagne et la ville.
Mais la réalité de son existence est très éloignée de celle de Brigitte.
Oui, mais ça se passe comme ça dans les Yvelines. En fait, j'ai passé quelques temps pour préparer le livre et il y a ces choses-là cohabitent. Donc elle vit donc sur son terrain. Elle est comme donc j'ai lu beaucoup de choses aussi sur les manouches et sur les populations du voyage, etc. Et donc elle travaille sur un marché. Enfin, les choses sont assez réalistes quand même.
Voilà, elle vend des vêtements voilà, avec sa belle-sœur
sur un marché sur les marchés des Yvelines. Mais elle a quand même une petite lubie qui n'est pas complètement imaginaire non plus. Mais qui est bon, qu'elle a développé plus particulièrement, qui est qu'elle pense que les gadjés, donc les non-gitans, les non-tziganes, non-manouches, sont vraiment en mauvaise posture, qui sont bêtes et méchants, et qu'il faudrait peut-être les aider un petit peu. Donc elle espère pouvoir rencontrer des gadjés. Elle en rencontre sur les marchés, mais pas assez longtemps quand elle vend des robes aux dames qui passent. Bon, elle n'a pas assez de temps, elle peut les aider un peu, à mettre un peu de bonne humeur dans leur vie, mais elle aimerait faire un peu mieux.
Oui, elle est pleine de bonne volonté, voilà, hein, effectivement. Vous parliez des gadgets, donc c'est le pluriel de gadjo. Mmh. Alors, on rencontre comme ça des mots, du vocabulaire issu de la culture gitane, quand vous évoquez Wendy, qui sont écrits d'ailleurs tous ces mots en italique. Il y a par exemple la camping. Alors, oui. C'est quoi la camping? Parce que le camping, je connaissais, mais la camping.
C'est la caravane ou le camping-car.
Ouais, les niglots aussi.
Les niglots, ce sont les hérissons.
Voilà. Et puis, il y a aussi les paysans.
Oui.
Alors les paysans, c'est très étonnant. Parce
oui,
que
ça m'a beaucoup amusé.
Ça, là aussi, vraiment, j'ignorais complètement le sens de ce mot dans la culture gitane. C'est qui les paysans?
Eh ben, c'est nous.
C'est nous. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas gitans.
Tous ceux qui ne sont pas gitans. Ouais. En fait, ça, c'est un reste de vocabulaire du temps où les gens du voyage passaient dans les campagnes, dans les fermes, demandaient quelques vivres, etc. Donc, ce sont les sédentaires, en fait, les paysans. Ce sont ceux qui sont attachés à la terre et qui ne bougent pas.
Voilà, qui n'ont pas compris grand-chose au monde,
voilà,
quoi, si on en croit
Wendy. Comme des poules dans des maisons toutes dures, qui sont bien malheureux et qui ont beaucoup de problèmes et que les gitans devraient aider.
Devraient donc aider. Hein, c'est la mission salvatrice dont se sent dont Wendy se sent investie.
Et j'ai trouvé très poétique d'appeler tout le monde paysan, enfin nous tous les paysans en fait, ça crée une espèce de distorsion étrange.
Bon, moi je viens de
ma famille vient du
quoi,
monde rural, du monde paysan, donc ça me parle encore d'autant plus, mais de dire qu'elle est une paysanne à la commission de Bruxelles ou un paysan à Paris, c'est drôle.
Bah oui, parce que Wendy, elle apprend justement qu'elle a été tirée au sort pour faire partie de ce fameux panel de citoyens
c'est
européens qu'on évoquait à l'instant.
C'est ça qui va lui permettre enfin de rencontrer des paysans et de les aider.
Et de les aider. Voilà, elle va les trouver, elle va les chercher longtemps, ça va pas être facile. Enfin, on va pas tout raconter. Et ce qui est assez incroyable, parce que c'est aussi, ça peut sembler être comme ça une petite anecdote rigolote sans beaucoup d'importance, mais en fait, quand on réfléchit un instant, quand on prend un petit peu de recul par rapport à ça, on se dit que c'est quand même très révélateur. C'est que quand Wendy décide d'aller à la rencontre de ces paysans, eh ben elle va se déguiser. Emmanuel Piret, elle va se déguiser en gitane. Ça,
oui,
c'est extraordinaire.
Oui,
c'est une manouche qui
en fait,
se déguise.
D'abord,
en
elle se rend compte qu'elle a pas de valise. Elle se dit mince, j'ai pas de valise et je dois partir parce qu'en fait, quelqu'un qui vit dans une caravane et qui part normalement part avec sa caravane. Et puis là, en fait, on lui donne un billet de train. Bon, il faut qu'elle aille prendre le train pour aller rejoindre le panel. Bon, bah donc il faut qu'elle trouve une valise. Et puis donc elle fait ses préparatifs. C'est pas si facile que ça finalement de quitter le groupe. C'est vrai que c'est rare en fait que les manouches quittent leur groupe familial, leur petite société organisée et un peu protégée quand même. Donc elle doit partir seule et donc elle essaie de trouver comment elle va s'habiller et finalement elle se dit que par diplomatie elle va s'habiller tel que les gadgets l'imaginent et donc elle achète une tenue de gitane
dans un magasin de farce et attrape. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle veut correspondre au cliché que les gadgets ont, donc une longue jupe noire à volant, elle met un camélia dans ses cheveux, on a presque l'impression d'une sorte d'Esmeralda du 21e siècle, Emmanuel Pirer, et donc elle va essayer de s'intégrer à ce groupe de paysans comme elle dit, et on découvre justement une forme de choc des cultures, quoi. On est quand même dans deux groupes qui ne peuvent pas se comprendre.
Oui, ben oui, elle a du mal. Enfin, là, elle a une grande bonne volonté, mais quand elle arrive vraiment dans la situation, c'est pas si facile que ça. Oui, il faut qu'elle dorme à l'hôtel, alors que vraiment dormir dans une maison, ça lui plaît pas du tout. Ben en plus, elle tombe dans l'eau parce qu'elle respecte mal. La conférence de citoyens en fait commence par un jeu. Pour mettre, bon, c'est ce qui se passe en général, pour mettre les gens à l'aise, on commence par faire.
Genre séminaire d'intégration d'entreprise.
C'est ça, parce qu'il y a aussi, les gens sont tellement divers et différents, viennent de toutes sortes d'horizons, donc pour qu'ils se rencontrent, on commence par faire un jeu. Et là, c'est du rafting et elle respecte mal les consignes de sécurité, elle tombe dans l'eau, alors que c'est l'automne, il fait froid.
Voilà.
Il arrive toutes sortes de mésaventures.
Ça commence assez mal, quand même. Mais justement, ces deux mondes qui sont effectivement très, très différents, est-ce qu'ils ont réellement envie de se comprendre, Emmanuel Piret? Parce qu'il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises dans le livre, manouche et mystère et doit rester mystère.
Ah oui, c'est ce que lui disent ses compatriotes, oui.
Donc rencontre impossible, et donc au contraire, parce qu'elle, en fait, elle veut être une sorte de pont, d'axe de communication entre ces deux mondes-là, qui finalement n'ont pas tant envie que ça de s'ouvrir l'un à l'autre.
Disons que là, au moins, on retourne les valeurs. C'est-à-dire que d'habitude, on pense toujours que ce sont les aides sociales, les assistantes sociales, les maîtres d'école, etc. Toutes sortes de gens, les élus qui doivent aider les populations du voyage. Alors que là, elle pense le contraire. Donc déjà, je trouve intéressant de renverser les choses. Ensuite, je pense qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés, mais que simplement, quand on est dans des mondes différents, on a un peu de mal à être raccord tout de suite, à trouver comment faire.
Et donc, Wendy et ses autres citoyens européens, donc ces 11 autres citoyens européens vont se réunir au sein de ce panel, réuni donc par les autorités de Bruxelles, panel qui doit débattre, réfléchir, faire des propositions, et le sujet qui échoue à ce panel français, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui peut donc sembler un peu anecdotique, et pourtant, nous sommes page 75 de votre roman.
À 16h, moment du goûter servi par l'hôtelière, les Français, excédés par les demi-tours, comme quand on se perd sur une zone commerciale, éprouvaient une sérieuse envie de radicalité. Ils voulaient prendre une direction unique et s'y tenir. Nous, les Français, sommes ainsi. Nous aimons les positions extrêmes, quitte à choquer, les gestes artistiques forts, la pureté de l'abstraction, les grèves monstrueuses ruinant les plans des plus vaillants touristes qui fondent en larmes devant nos monuments fermés. Tandis que nous dégustions les muffins maison de l'hôtelière, le déclic est soudain venu de Jeannine, la dame au puma rose que son mari avait poussée à s'inscrire au panel pour lutter contre la dégénérescence cérébrale. Jeannine ne faisait jamais rien. C'était le principe de son existence. Ni elle ne travaillait, ni n'avait de chat, ni d'enfant. à l'âge où ses amis recevaient leur marmaille, courait de patchwork en pilates et de resto du cœur en initiation en Photoshop, elle demeurait inerte. Si elle avait des fleurs dans la main, son mari dénichait un vase. Si elle chantait, il lui imprimait la partition. Si, forcée par lui, elle faisait un sudoku, il soufflait les réponses. Et si elle détestait les sudoku, il l'expédiait dans le Morvan régler les problèmes de l'Europe. Lassée de ces débats, buvant son café, le regard plongé dans le scintillement de la cascade du jardin japonais, elle a murmuré « Pourquoi faire quelque chose plutôt que rien ?» Son murmure a résonné parmi nous. Étienne, le bibliothécaire, a le premier attrapé la formule au vol et montré ce que la phrase de Jeannine avait de visionnaire quand le futur est à la décroissance. Tous furent alors remplis du désir de ne rien faire du tout. L'employé d'Amazon approuva entièrement, ainsi que Batoul qui, dans son cabinet de psychanalyste, écoutait de la musique du matin au soir. Wendy, revenue de sa promenade, passait des heures à contempler la rivière bordant le terrain. Alice avait rencontré en vacances avec ses parents en Nouvelle-Guinée des papous immobiles, refusant de remuer le petit doigt pour cultiver leur terre, même s'ils avaient un peu faim. Les Français décidèrent d'éprouver le temps libre plutôt que de le prouver. La radicalité du geste leur plaisait. Parvenus aux mêmes conclusions sur la vanité de l'agitation que nombre de penseurs, de Paul Lafargue à Pierre Rabhi et d'Épicure au peintre Malevitch ou au poète John Keats, qui appelle de ses voeux une indolence si complète que même écrire un poème est encore trop industrieux. Ils décidèrent d'utiliser les 3 week-ends européens à ne rien faire du tout.
Le légendaire pragmatisme français, il fallait donc y penser, Emmanuel Pirère. C'est une sorte d'instantané de la réalité française là que vous décrivez à travers vos mots. Ils sont vraiment comme ça, les Français, aujourd'hui, ce besoin de radicalité, déjà pour commencer.
Ah oui, ça, je trouve que c'est assez, jamais assez, moi, dans l'esprit français, oui, le fait de penser qu'on doit être le premier pays du monde, les plus révolutionnaires, les plus tout, et je trouve ça plutôt amusant et engageant. Et donc là, en l'occurrence, en fait, ils ont un thème qui les vexe au départ, voilà. Puisqu'ils se disent quand même, on est des Français, on devrait avoir un grand thème.
Oui, alors je vais donner quelques-uns des thèmes.
L'intelligence artificielle, par exemple, ça sera un thème vraiment chouette, vraiment sérieux.
Voilà, par exemple, donc l'intelligence artificielle, alors c'est au Danemark.
C'est les Danois qui l'ont eu.
Il y a le terrorisme pour les Belges, donc là aussi sujet extrêmement dramatique, les OGM, la Bulgarie, la biodiversité pour Chypre, les énergies renouvelables pour l'Irlande, les migrants pour le Luxembourg, là aussi sujet extrêmement d'actualité, comme les retraites pour les Maltais. Il y a quand même des choses extrêmement lourdes. Mm-hmm. Et comme par hasard, parce que vous jouez quand même aussi beaucoup avec les clichés, l'humour européen échoue à l'Italie quand même, Emmanuel
Pirère. Qui vont réfléchir beaucoup à toutes les blagues possible.
Voilà. Et donc les Français se retrouvent avec ce sujet sur le temps libre. Alors il se trouve qu'il y a eu un ministère du temps libre dans les années 80 quand François Mitterrand est arrivé.
Au moment où on regardait les films de Romère.
Voilà, exactement.
On avait droit à du temps libre.
Voilà. Et déjà à l'époque ça avait suscité beaucoup de sarcasme. Oui. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même très important le temps libre, Emmanuel Pirère, avec la réduction du temps de travail, les 35 heures en France, la société a quand même un peu changé.
Oui, et puis enfin, il y a eu par confort, on a voulu du temps libre. Maintenant, c'est plus une question de confort, c'est aussi une question de survie sur Terre, peut-être de décroître. Donc, ils tombent peu à peu sur cette idée-là, en fait. Au début, donc, ces Français sont vexés d'avoir ce sujet qui leur semble vraiment annexe, c'est pas du tout intéressant et vraiment vexant pour un grand pays comme la France. Et finalement, en passant par le biais de l'extrait que vous avez enregistré avec cette comédienne qui le lit très bien, cette Jeannine qui est tout en puma rose, qui est là un peu par hasard et qui ne fait jamais rien de ses journées, qui tout d'un coup dit mais pourquoi faire quelque chose plutôt que rien? Ça leur semble tout d'un coup génial et ils vont mettre à profit cette idée et la pousser au bout, en fait, en ne faisant plus rien du tout. Le farniente comme mode de vie, et c'est ce qu'ils vont proposer à l'Europe. Ça ne va pas être si bien reçu que ça, finalement.
Non, c'est le mieux qu'on puisse dire. Mais alors, parlez-nous un petit peu de ce panel, quand même. Comment est-ce que vous l'avez composé? Parce que il y a une sorte d'équilibre à l'intérieur, à l'intérieur du groupe. Vous n'êtes pas sociologue, vous ne faites pas partie d'un institut de sondage.
Non.
Et pourtant, il n'a pas été construit au hasard, ce panel.
Alors, en fait, c'est ce que j'ai trouvé très beau dans l'idée de Jacques Testard dont on parlait tout à l'heure, avec cette idée de convention de citoyens. On tire au sort 12 ou 15 citoyens. Donc, il faut vraiment que ce soit le hasard. C'est-à-dire, c'est pas des militants. Il faut que ce soit n'importe qui puisse être tiré au sort. Bon, ça, c'est important. Et puis, j'ai trouvé que c'était une super idée pour de la fiction, en fait, parce que ça permet de rassembler tous les personnages disparates dont vous avez fait la liste en début de démission. C'est un moyen qui n'arrive pas dans la vie, en fait. On rencontre les gens qu'on connaît déjà, enfin, ou des gens qui nous ressemblent, de notre milieu social, etc. Et ça, on rencontre pas si souvent des gens tout à fait tirés au sort, enfin, des gens de milieux tout à fait différents.
Alors, il y a un personnage qui se trouvait dans votre dans un des romans préférents, enfin, la fille, en fait, du personnage principal du roman, donc la psychanalyste voilée, Batoul, voilà. Et puis, donc, il y a cette dame qui aurait dû participer à une émission de télé-réalité extrêmement connue.
Alors, je sais pas
si... Ça, c'est intéressant. Pourquoi vous introduisez cette dimension-là?
C'est une boulangère d'Asnières.
Voilà. En région parisienne aussi.
Oui, c'est ça. Alors, je sais pas si j'ai rêvé, mais il me semble que Jacques Testard disait... il dit que quand on fait ça, vraiment sérieusement, les gens deviennent comme des espèces de saints. C'est-à-dire qu'ils deviennent merveilleux, ils se prennent au jeu, si vraiment on respecte les règles, hein, pas dans les consultations et les grands débats qui sont faits n'importe comment, mais si on forme les gens et si vraiment on tient compte ensuite de ce qu'ils ont dit, si les élus en tiennent vraiment compte et qu'ils le savent, ils deviennent des gens extrêmement responsables, ils acceptent de se former sur des questions difficiles et ils sont pas corrompus. Parce que ce sont des citoyens lambda et ce sont pas, ils n'ont aucun intérêt autre que l'intérêt commun.
Voilà. Donc l'intérêt du profane peut servir une forme de décision politique.
C'est ça qui est merveilleux dans cette idée de Jacques Testard, c'est que n'importe qui, donc la boulangère d'Asnières, peut devenir un personnage politique extraordinaire qui prend vraiment en compte non pas son intérêt personnel et privé, mais le bien commun et
l'avenir. Mais vous y croyez, vous, ce système-là? Parce que vous tournez un petit peu en dérision, c'est le moins qu'on puisse dire.
Mais le mien est justement un peu mal organisé, c'est ce que m'a dit Jacques Testard quand il a lu mon livre.
Certes.
Et donc on aimerait d'ailleurs en discuter peut-être en public à l'occasion pour qu'il puisse répondre et dire pourquoi mon panel est mal organisé et pourquoi, en effet, ça échoue pour ces raisons-là.
Alors, on n'est pas très loin quand même, Emmanuel Pirère, du débat initié par les Gilets jaunes sur le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Qu'en pense la citoyenne Emmanuel Pirère de ce référendum?
Oui, c'est encore un petit peu autre chose, mais je trouve en effet que ce serait une très bonne chose. Mais c'était tout à fait étrange pour moi, parce que j'ai construit ce panel divers, etc., comme vous le disiez, depuis 2014-2015. C'est-à-dire quand mes Français vont à Bruxelles et que la Commission ne répond pas selon leur goût, selon leur désir à ce qu'ils proposent, ils sont très en colère en fait, parce que la promesse n'est pas tenue. Ils trouvent que la Commission européenne n'a pas été à la hauteur de sa demande et ils se mettent très en colère. Et là, ça tourne un peu, ça part en vrille. Quand j'ai vu apparaître le mouvement des Gilets jaunes, j'avais l'impression que ça ressemblait beaucoup à ces personnages à qui on fait des promesses et qui tout d'un coup ces promesses ne sont pas tenues. Et ça part aussi en vrille. Dans la réalité, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup, en fait.
Mais la démocratie représentative, elle est en crise. Est-ce que pour vous, il faut davantage de démocratie directe, ou est-ce que votre roman ne montre pas les limites et les risques de cette démocratie directe?
Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, je suis d'accord avec la démocratie représentative, mais ces consultations de citoyens me semblent une très bonne chose si elles sont bien faites. Mais il faut que les élus ensuite jouent le jeu et acceptent de prendre en compte ce qui a été proposé par les citoyens.
Oui, parce qu'il y a un personnage...
Parce que sinon, c'est pire. Les consultations qui sont des promesses non tenues, en fait, c'est de la communication. Et c'est ce que les Gilets jaunes appelaient justement le grand blabla.
Voilà, en référence au grand débat d'Emmanuel Macron. Voilà,
ça devient... En fait, c'est encore pire, parce que chaque fois qu'une couche de communication est rajoutée, où on dit qu'on va consulter les gens et qu'on ne les écoute pas, c'est encore pire que ce que c'était auparavant.
Alors, il y a un personnage qu'on croise vraiment au détour d'une ligne, mais ça m'a intéressé, parce que justement, je voulais savoir ce que vous mettiez derrière ce personnage. C'est une dame qui a un tailleur fuchsia et qui assiste à la conférence à Bruxelles, et elle dit ceci: quand on invite des profanes dans l'arène politique, il est difficile de les faire repartir, ils s'accrochent, grisés par l'air du pouvoir.
Oui, en fait, j'ai trouvé ces paroles-là dans le compte-rendu d'une conférence de citoyens, donc celle dont je parlais tout à l'heure, qui a eu lieu à l'échelle européenne, et la région, c'était sur la ruralité, et la région de Lyon, dans laquelle j'habite, avait participé au nom de la France, en fait. Donc j'ai lu attentivement le panel, la manière dont il avait été constitué, il y a des enfants aussi, dans mon panel, il y a aussi des enfants, parce que c'est le monde de demain qu'on construit pour eux, donc c'est eux qui le vivront, donc il faut qu'ils soient là. Et les citoyens vont à Bruxelles, donnent leurs conclusions sur la ruralité, ils ont bien réfléchi, sont très contents, mais simplement on ne les écoute pas en fait. On leur dit est-ce que l'hôtel a été confortable, est-ce que vous êtes fiers d'être dans un beau bâtiment comme le Berlaymont, donc le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, et ils sont un peu vexés, ils ont envie qu'on les écoute, et il y a une élue qui en est, ou une commissaire, je sais plus exactement quelle est cette personne, qui dit ça, qui dit mais écoutez, bon, maintenant vous avez fait votre rôle, vous pouvez repartir chez vous.
Voilà, sinon là, avec l'impression que le roman rejoint la réalité. Oui. Mais alors, est-ce que l'Europe, l'idée européenne, serait une chimère, Emmanuel Pierreur?
Moi, j'aimerais. Alors, c'est ce qui est amusant, c'est qu'une chimère, c'est un assemblage disparate de choses qui sont pas censées aller ensemble.
Ben, certains diront que l'Europe, c'est peut-être un peu ça.
Tout à fait. Mais en même temps, il y a quand même un désir que ça fasse corps. C'est-à-dire qu'une chimère, c'est censé être aussi un corps fait de morceaux disparates. Un peu comme mon livre, mais qui est censé quand même être un roman qu'on peut lire de manière tout à fait continue et sans s'apercevoir qu'il y a tout un tas de petits morceaux.
Oui, mais en même temps, c'est ça qui était intéressant de décortiquer avec vous aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que vous aviez justement une idée très très claire? Parce que j'imagine que ça vous a demandé un plan, mais très très précis. Parce qu'effectivement, il y a des petits détails qui se répondent. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une dimension puzzle, c'est-à-dire que petit à petit les pièces vont s'emboîter alors qu'au départ on se doute absolument pas de comment évidemment tout ça va tourner. Comment vous avez procédé?
Je procède par plein de biais différents. En fait, je constitue des tas de petites collections de choses qui m'intéressent, qui me plaisent. J'en fais des noyaux sur les. Au fur et à mesure, je travaille ces thèmes, comme le thème des manouches ou les autres thèmes, le thème des chimères, etc. C'est comme si je leur ajoutais des petits crochets en les reliant à d'autres choses. Et une fois qu'ils sont pleins de petits crochets, en fait, ils s'accrochent très bien les uns aux autres. Et là, je peux construire mon intrigue et finalement, ça peut couler assez facilement.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel Pierreur. Chimère, votre nouveau roman paru aux éditions de l'Olivier, un livre que vous allez donc pouvoir gagner, vous qui nous écoutez, en tout cas trois d'entre vous, en répondant à la question du jour. Toujours que vous commencez à savoir maintenant en message privé à partir de la page Facebook de Vous m'en direz des nouvelles. La question est la suivante. Dans le roman d'Emmanuel Pierreur, quel est le nom que Tatiana a donné à sa créature, le nom de cette créature mi-homme, mi-chien, qui est donc un des personnages majeurs du livre. Toutes nos félicitations à nos gagnants d'hier, Lamine Barra des Clés-sous-Bois en région parisienne, Rena Faka de Yaoundé au Cameroun, Askandaru Chao de Lomé au Togo et Elie Douche qui est également de Lomé au Togo. Donc mention spéciale à nos auditeurs togolais aujourd'hui. Ils recevront ces différents gagnants l'album d'Oxmo Puccino qui était avec nous hier. La bonne réponse à la question d'hier était nombril.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on parlait de petits assemblages de choses disparates à l'instant avec Emmanuel Pierreur. Eh bien, on va aller justement visiter les cabinets de curiosité. Ça tombe assez bien puisque dans ces cabinets de curiosité, avec des coquillages qui côtoient des objets de marqueterie ou encore des animaux empaillés, eh bien, ces cabinets de curiosité présentent souvent un mélange à l'esthétique assez étonnante, comme le roman d'Emmanuel Pierreur. Le concept est revenu d'ailleurs au goût du jour depuis les années 2000 et une exposition est consacrée en ce moment à ces cabinets de curiosité. Ça se passe en Bretagne, à Landerneau, dans l'ouest de la France, au Fonds pour la Culture, Hélène et Édouard Leclerc. Fanny Blechner s'y est rendue pour nous.
L'exposition s'ouvre sur un tableau, un trompe-l'œil de Dominique Orems, peintre du XVIIe siècle. Il figure une vitrine à l'intérieur de laquelle sont déposés pêle-mêle un crâne humain, des coraux, des petits tableaux ou encore une sculpture. C'est cette hétérogénéité qui caractérise le principe du cabinet de curiosité, nous explique l'un des commissaires, Patrick Moriès.
C'est regrouper des exemples de tout ce qu'il y a d'un peu extraordinaire ou jamais vu dans le monde. Ces objets-là, soit on les monte comme des objets d'art, avec des matières précieuses, soit on les mélange avec des œuvres d'art, qu'on dirait maintenant plutôt d'artisanat, parce que ce sont des objets d'orfèvrerie, par exemple. On rassemble ces deux aspects du monde, si vous voulez, celui du monde inconnu, parce qu'exotique, et du monde de la virtuosité ou de l'extrême habileté.
Durant la Renaissance, princes, hauts dignitaires, mais aussi médecins et apothicaires consacrent des salles entières à ces curiosités. Mais les choses changent à la fin du XVIIe siècle.
C'est le moment où les encyclopédistes commencent leur travail, où on redéfinit le monde suivant des règles plus rationnelles. Et donc, on estime à ce moment-là que le cabinet de curiosité, en fait, est un lieu impur, parce que justement, c'est un lieu qui, au lieu de différencier les choses, les rassemble et les mélange d'une manière illogique. On décide de séparer les objets artistiques d'une part et les objets scientifiques de l'autre.
Ici, c'est une déambulation sur près de 1000 mètres carrés qui est proposée. Laurent Lebon est l'autre commissaire de l'exposition.
C'est comme un moment un petit peu exceptionnel, on n'est pas habitué à ça dans un musée, où on peut glisser d'un univers à l'autre en passant d'une salle par les quatre angles de cette salle, découvrant un univers, puis allant dans un autre. On a là, comme ça, au fond, 17 moments, 17 ambiances sur ce qu'est un cabinet de curiosité aujourd'hui. On pourrait dire, de manière un petit peu prétentieuse, je m'en excuse, mais peut-être qu'il y a une sorte de méta-cabinet de curiosité lorsqu'on a franchi les portes de l'exposition de la dernière salle.
On peut ainsi admirer aussi bien une collection d'abeilles du Muséum d'Histoire Naturelle que d'étranges animaux empaillés appartenant au collectionneur Antoine de Galbert, ou encore la collection Émile Hermès, qui d'habitude n'est pas visible au public, de magnifiques fausses roches créées par Théo Mercier, et puis l'atelier de l'artiste Michel Barcelot. Car l'un des aspects intéressants de l'exposition, c'est qu'on y trouve des espaces muséographiques classiques, mais aussi des espaces privés, comme celui intitulé « Le collectionneur inexistant ». Le commissaire Patrick Moriès a en fait transplanté une des pièces de son appartement au sein de l'exposition. Derrière un très léger filtre sombre qui donne un aspect assez onirique, on aperçoit divers objets, notamment des momies de sirènes. Un objet très recherché, fabriqué en fait à partir d'un corps de squale et d'une tête de singe, mais qui ici ont été recréés pour l'occasion.
On n'a pas pu en obtenir et donc j'ai demandé à un ami artiste de me recréer trois sirènes. Il y a une chose très étrange qui s'appelle une bouteille de liesse, qui est une bouteille de verre remplie d'eau bénite dans laquelle se trouvent des petits objets en verre filé, qui est un objet de dévotion du XVIIIe siècle et qui est un objet magique en soi. Une proue de pirogue mélanésienne. Il y a des centaines d'objets malheureusement.
Les 1500 œuvres présentées ici viennent toutes de France et sont toutes des prêts. L'exposition est donc particulièrement éphémère. Comme vient nous le rappeler une dernière œuvre, une collection de dizaines de sabliers de toute taille appartenant à Jacques Attali.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain pour parler bande dessinée, cette fois avec Nicolas de Crécy pour le premier tome d'un road trip en bande dessinée, un road trip qui s'appelle Visa Transit, publié chez Gallimard Bande Dessinée, un road trip qui nous emmène à l'intérieur d'une vieille voiture, une Citroën Visa en l'occurrence, depuis la France jusqu'à la Turquie en passant par les différents pays d'Europe de l'Est sur fond de nuages nucléaires, puisque l'histoire remonte à l'époque de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.